De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, deux interviews, un blind test, des films qui sont dans les salles depuis le 25 septembre, d'autres depuis le 2 octobre, et puis d'autres qui ressortent, Manu.
Oui, notamment Long Weekend, un film australien de Colin Eggleston, et puis je vous parlerai aussi du dernier Rambo.
Marine, qui n'est pas là, nous parlera de Viager. Alors, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Viager ou Viager.
Viager, oui.
Viager, oui. Et puis, moi, je vous parlerai alors très rapidement de J'irai où tu iras, mais ce sera surtout l'occasion d'entendre Géraldine Nakache et Léla Bekti, puisqu'on a pu les rencontrer, on a eu ce plaisir. Et puis, je vous parlerai aussi du film de Mati Diop, Atlantique. C'est le Grand Prix du Festival de Cannes 2019. Et puis, eh bien, on jouera un blind test, puisque... Les Rambo ne cessent, et même les Rocky. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de films de Stallone qui reviennent inlassablement à peu près toutes les décennies. Et ce sera l'occasion de jouer donc un blind test avec la filmographie de Sylvester Stallone. Ainsi débute Cinérama avec une comédie sentimentale de Géraldine Nakache.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Quelques années après Tout ce qui brille, voilà le duo Léla Bekti-Géraldine Nakache reformé dans J'irai où tu iras, nouveau film donc de Géraldine Nakache. Alors si dans le film qui a propulsé les deux actrices sur le devant de la scène, elles étaient amies comme des sœurs, ici elles sont vraiment sœurs mais n'ont rien à se dire. Alors que leur père omniprésent qui fait tout pour l'une ou pour l'autre doit s'absenter pour faire une chimio, hein, ce qui n'est pas rien, eh bien, les deux sœurs vont faire un bout de route ensemble. Elles vont à Paris. Alors, pour Vali, le personnage de Géraldine Nakache, qui est chanteuse de mariage, eh bien, c'est l'occasion de passer un casting pour être choriste de Céline Dion sur les dates françaises. Alors, autant dire que sa sœur Mina, qui est art-thérapeute, eh bien, va découvrir un monde qu'elle ne soupçonne pas. Alors, la comédie s'infiltre évidemment dans les rapports de deux personnages aussi dissemblables, entre une Vali expressive et une Mona quasi apathique. Et il y a donc de très bonnes séquences. La manière qu'a Géraldine Nakache de décrire ce monde du showbiz tombe juste sans que la comédie épuise les scènes. Alors, il faut savoir que c'est un monde qu'elle connaît, Géraldine Nakache, parce que je crois qu'elle a été assistante de production assez longuement donc, à la télévision. Elle tire le trait donc juste ce qu'il faut et sait où s'arrêter pour qu'on ne tombe pas dans une caricature poussive, comme c'est le risque pour une comédie et comme ça arrive bien souvent dans les comédies françaises. Alors, toutefois, Géraldine Nakache ne s'en tient pas à la comédie familiale. Elle ajoute un versant émotionnel, en trouvant un ressort scénaristique amusant, puisqu'on apprend que René, le mari de Céline Dion, souffre d'un cancer, et évidemment c'est comme le père des deux sœurs, donc voilà, il y a une espèce d'analogie, voilà, et donc ça insuffle eh bien, un mouvement dramatique. Ainsi, le film oscille entre deux attitudes, la légèreté et l'émotion, non sans trouver les solutions pour bien équilibrer l'ensemble, qui est une douce comédie sur la famille, sur l'incommunicabilité, et un peu plus loin, le deuil. On écoute Géraldine Nakache et puis un tout petit peu Léla Bekti.
Jour J, demain, c'est fini les mariages. Là, on passe au stade supérieur, ma fille.
Allez, papa, à demain.
Je peux pas t'accompagner demain.
Moi, j'y vais pas sans toi, papa.
Dernier jour.
J'aimerais bien que t'accompagnes ta sœur demain à son rendez-vous.
Ok.
Merci, ma fille.
Évidemment que non. Lorsqu'on m'a demandé de faire une suite à Tout ce qui brille, j'avais pas d'histoire, pas d'envie. En tout cas, pas l'envie de faire une suite à ce film-là. Donc, il fallait se remettre à l'écriture. Et du coup, l'idée de Tout ce qui brille, c'était quand même deux amis qui s'étaient choisis, qui s'étaient reconnus en quelque sorte. Et là, vraiment, le postulat de départ, c'était deux sœurs, donc de la même famille, qui, évidemment, donc, se sont pas choisies. Et comment on fait quand on est issu de la même famille et qu'on doit gérer une situation entre guillemets de crise ensemble? Comment on fait pour gérer ça à ces âges-là? Comment on fait pour apprendre à communiquer même quand ça semble un peu trop tard?
On habite dans la même ville, ça fait au moins un an qu'on s'est pas vu.
Quand on déjeune une heure toutes les deux, on a rien à se dire, et là tu nous demandes de faire 4 heures de route ensemble.
C'est le dernier tour des auditions pour les choristes francophones de Céline.
Oh, me dis pas que tu dis Céline pour Céline Dion.
Je vais pas dire Pascal, elle s'appelle Céline.
C'est deux sœurs absolument différentes, quoi. Il y en a une qui semble un peu ravie de la crèche, comme ça, et qui finalement se cache derrière les paroles des chansons des autres.
et l'autre qui a préféré rentrer dans, à l'intérieur de sa carapace en se disant ça ne me traversera pas. Et c'est ça aussi qui favorise la comédie. Donc il y a toujours dans la comédie un peu de drame de toutes les façons.
C'est des impulsions.
Hey!
Ouh, t'es fatiguée.
On a 4 heures de route, on va pas se parler pendant 4 heures. Si.
Il n'y a pas grand-chose qui sépare Céline Dion d'une chanteuse de mariage, quoi. C'est qu'une histoire de croyance, c'est qu'une histoire de volonté de faire bien, de tout donner à ce moment-là, précisément. Et finalement, entre Céline Dion à Las Vegas et Vali à un mariage, l'énergie, la volonté de faire bien est exactement la même. Et ça aussi, c'est cinégénique, quoi. En tout cas, c'est très puissant, je trouve.
C'est bizarre de vouloir être choriste. Vouloir être derrière quelqu'un qui fait le même métier que toi, caché dans le noir, je trouve ça hyper étrange, en fait.
Franchement, arrête, Mina. On dirait que je te dérange. Je te pose des questions, tu me réponds que par oui ou par non. C'est toi qui as le cœur fermé à triple tour.
Ça pourrait être les paroles d'une chanson de Céline Dion.
Je suis inspirée par ce que j'observe. Parfois, c'est des familles que je ne connais pas, que je vois l'espace d'une heure. Je suis inspirée par le cinéma, par ce que j'ai vu de la famille au cinéma, par ce qui m'anime de manière générale. Donc ça peut être aussi intime que c'est ouvert. Mais la vérité pour moi au cinéma, en tout cas jusqu'à présent dans mes films, c'était un moteur essentiel. Essayer de raconter la vérité, ça ne veut pas dire la mienne, ça ne veut pas dire que tout est que documentaire. Mais ça veut dire une forme de vérité. Donc pour raconter une vérité, j'ai besoin de l'appréhender correctement et de la connaître un minimum.
Vous vivez dans quel monde, papa et toi ?
Encore papa ? Quoi, papa ? C'est quoi le problème avec
le
papa ?
Le problème, c'est que je veux pas être comme vous, moi. Moi, je veux pas mentir. Je veux pas à vouloir vous protéger.
Il est malade. Il est malade, papa. Et nous, on est là. Le personnage de Géraldine, le mariage, ça se passera sûrement une fois dans leur vie. Elle veut leur donner tout. Tout, et surtout, elle y croit. Et Mina, elle est art thérapeute, elle croit fort en ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle ouvre en même temps son centre à elle, son premier centre. Elle veut le faire seule, son père veut l'aider financièrement, mais elle ne veut pas, parce que c'est important pour elle. C'est important de le faire seule parce qu'elle y a cru. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est un peu... qui s'est un peu forgé un peu seule, même si elle est très proche de son père, mais on a sûrement dû lui dire « mais t'es folle, à ton âge, d'ouvrir ton centre ». Mais c'est marrant, elle croit très fort en ce qu'elles font, elle croit très fort en ce qu'elles sont, mais elle croit pas du tout en ce qu'elles sont ensemble. Et c'est pour ça que c'est un vrai film sur la croyance et la parole.
Je fais quoi, moi, avec ça ? Je fais quoi ?
C'est mes filles, ça.
C'était Géraldine Nakache et Léla Bekti au micro de Cinérama pour le film J'irai où tu iras, un film dans les salles depuis le 2 octobre. C'est le cas aussi de Viaje. Alors peut-être qu'on prononce Viaje. Moi, je n'ai pas fait d'espagnol, donc j'avoue que je suis incompétent là-dessus.
Viaje, je dirais. Oui, Viaje.
En tout cas, c'est le film de Celia Rico Clavellino qu'a vu Marine. Et elle nous en parle.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oh ! Ça va ?
Léonore vit seule avec sa mère, veuve depuis peu, dans un très modeste appartement. Sa mère, interprétée par Lola Duenas, est une modeste couturière et aimerait que sa fille, avec qui elle entretient une relation fusionnelle, entre dans l'atelier de textile où elle travaillait avant. Mais au cours d'une des rares soirées qu'elle s'autorise dans sa vie peu réjouissante, Léonore revoit l'une de ses anciennes amies qui vit à présent à Londres. La possibilité de cet ailleurs lui apparaît subitement comme très attrayante et elle décide de quitter sa mère pour partir reprendre ses études à l'étranger. Viaje signifie en espagnol voyage, et le voyage vers une nouvelle vie, comme on le comprend, va également être un voyage intérieur pour la fille et pour sa mère.
Maman, voy a salir un rato.
¿No quieres que veamos la serie?
Es que he quedado.
Il y a une dimension autobiographique très forte dans ce premier film de Celia Rico Clavellino, qui a choisi de raconter la séparation nécessaire entre une mère et sa fille qui quittent le nid familial. Le sujet du film est donc universel, c'est vrai, mais le traitement de cette histoire est quand même un peu trop austère pour la rendre vraiment passionnante. La plupart des scènes se passent uniquement dans l'appartement des deux héroïnes qui, autant le dire, n'est pas vraiment très feng shui. Hein. Ce choix du huis clos est justifié, bien sûr, puisque l'appartement représente précisément ce que les deux femmes partagent, au sens propre comme au sens figuré. On comprend que la mise en scène joue de ce cloisonnement pour dire le lien fusionnel qu'il y a entre Léonore et sa mère, et en même temps, la séparation de cet espace par des murs, par des pièces, symbolise aussi leur non-dit et leur difficulté à communiquer. Mais le fait que le film soit réaliste et donc très lent, avec beaucoup de plans fixes, beaucoup de silence, rend toute cette mise en scène assez étouffante et donc peut-être parfois pas très agréable à regarder. Cependant, c'est toujours un plaisir de voir Lola Duenas ailleurs que chez Almodovar, d'autant qu'elle interprète ce personnage de femme veuve avec autant d'éloquence que de pudeur. La comédienne Anna Castillo a largement les épaules et le talent pour jouer à ses côtés. Elle est d'ailleurs l'un des espoirs du cinéma espagnol actuel. C'est sûrement un film qui va parler à beaucoup de gens, hein, puisque presque tout le monde a été un enfant qui doit quitter ses parents. C'est aussi un film qui pêche par surplus de pudeur. Heureusement, la dernière partie, plus lumineuse, vient alléger un long métrage qui, quoique réussi, s'avère quand même un peu trop lent.
Léonore ?
Viager ou viarer, donc, est en salle depuis le 2 octobre. Un film que certains attendaient, c'est Rambo Last Blood de Adrian Grunberg avec Sylvester Stallone, évidemment. Un film que tu as vu. Alors, est-ce que tu vas nous parler d'un navet ou alors d'un film finalement qu'on recommande? On va le savoir tout de suite.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Vous êtes en face d'un expert au fusil, au couteau ou à main nue. Rambo était le meilleur.
J'ai fini par rentrer chez moi pour protéger la seule famille que j'ai jamais connue.
Tu dois vraiment la vouloir, cette fille.
Alors, c'est un peu confondant parce qu'on a entendu des voix du premier Rambo, de First Blood.
Mais je pense que... Alors, je ne sais pas, je l'ai vu en VO, donc je ne sais pas s'il a toujours la même voix française.
A priori, oui.
A priori, oui. Je ne vois pas pourquoi.
Et d'ailleurs, je recommande, moi, de regarder les Rambo avec la voix française.
Ah oui, oui, c'est plus indispensable. Amusant, hein. Alors, John Rambo, revient et il n'est pas content. Mais ça, personne n'en a jamais douté. Sinon, à quoi bon tourner un ultime épisode de cette saga culte après un quatrième opus viscéral, d'une violence graphique décomplexée, d'une rage quasi cathartique réalisée par Stallone lui-même. Alors, le First Blood du premier et meilleur Rambo, hein, laisse place à un Last Blood pour un dernier tour de piste, d'autant que Stallone, avec ses 73 printemps, n'est plus de la première jeunesse. Le retrouver dans la peau du personnage qu'il a rendu célèbre avec celui de Rocky peut sembler pathétique, mais... curieusement, c'est sans doute le seul intérêt de ce Rambo, exécuté comme un pitoyable DTV avec Steven Seagal ou Chuck Norris.
Alors DTV, je dis, c'est direct.
C'est direct ou vidéo, voilà. Mais il y a la présence physique et symbolique de Stallone, le visage buriné, monolithique, presque monstrueux, sa bouche déformée, ses yeux tristes toujours à la droupie, son corps massif et empesé, plus proche d'un vieux taureau à l'approche du crépuscule que du jeune premier bodybuildé. Et il trimballe donc toute une histoire, un traumatisme issu d'un passé tumultueux et une mélancolie qu'il rend touchant. Alors comment ne pas penser aux épisodes précédents où tour à tour, alors il fut rejeté par les siens de retour du Vietnam, puis engagé par l'armée pour sauver des prisonniers aux mains de sadiques Viet Cong, avant de s'envoler en Afghanistan pour défendre les locaux contre les méchants occupants soviétiques. Et tout ça pour quel résultat? Pour rien, ni honneur ni gloire. Rambo peut se comporter en héros suicidaire et accomplir les missions les plus périlleuses. Il n'en reste pas moins un loser, un rebut de la société, une sorte de honte pour son pays. Il porte en lui, en fait, une tristesse assez fascinante, tout un paradoxe d'une Amérique schizophrène qui chérit autant qu'elle déteste ses icônes. Alors aujourd'hui, Rambo vit reclus avec sa nièce dans un ranch perdu au sud des États-Unis. Tel un vieux cow-boy solitaire, il n'attend plus rien de la vie, juste la paix et la tranquillité. Mais toujours aussi parano, il a quand même conçu une sorte de bunker en cas d'attaque. Attaque de qui, de quoi et pourquoi? Mystère, mais la suite du scénario va lui donner raison.
J'ai passé ma vie à affronter la mort. J'ai regardé ce que j'aimais mourir. Certains foudroyés d'une balle, d'autres si abîmés qu'il ne restait plus rien à enterrer. Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets. Mais l'heure est venue d'affronter mon passé.
vengeance.
Non, mais la bande-annonce,
elle est étrange.
Elle est étrange parce qu'il n'affronte absolument pas son passé. Enfin bon, c'est très curieux. Alors parlons-en justement du scénario coécrit par Stallone, qui semble avoir été dirigé un soir de beuverie par des nostalgiques de la Canon. C'était une firme de films d'action et autres des années 80. Alors, ayant retrouvé, grâce à Gisèle, une amie, la trace de son père au Mexique, la nièce de Rambo, Gabrielle, part le rejoindre afin d'en savoir un peu plus sur les raisons qui l'a poussé à abandonner sa fille. Alors bien sûr, sur place, le père, aussi agréable qu'une porte de prison, lui annonce qu'il n'en a rien à faire d'elle, qu'elle n'existe pas. La pauvre, terrassée par le chagrin, n'a plus qu'à retourner chez elle et faire un gros câlin à son oncle très inquiet. Mais il s'agit en réalité d'un piège pour la kidnapper, la droguer et la livrer à un réseau de prostitution. Alors la suite, vous pouvez amplement la deviner, hein, John Rambo reprend du service et part au Mexique à la recherche de sa nièce. Quand cette dernière décède, Rambo, retrouvant ses instincts meurtriers, prépare sa terrible vengeance, attirant les sales Mexicains dans son ranch investi de pièges. Alors je dis sales, hein, parce que... Car tous les Mexicains dans le film, hein, hormis une journaliste transparente interprétée par une Paz Vega venue payer ses factures, hein, ils sont tous brutaux, idiots, violents, vicieux et totalement désincarnés, victimes d'un tel mépris que les auteurs n'ont même pas pris la peine d'écrire un personnage de méchant, charismatique. Enfin, à mon avis, le minimum à attendre pour ce type de film. Alors, au second degré, la pilule pourrait passer, comme dans une BD outrée, mais ce racisme primaire sert trop la soupe à la politique de Trump pour ne pas rester en travers de la gorge. Alors, dans 10 ans, ce monument d'imbécilité se laissera peut-être visionner avec amusement, hein, avec un recul nécessaire. Pour le moment, ce Rambo Last Blood, au-delà de son idéologie ultra-droitière, ne possède aucun charme, d'autant que la mise en scène pato de Adrian Grunberg n'arrange rien. Alors, ce réalisateur avait fait un film avec Mel Gibson auparavant, Kills quelque chose, je ne sais plus.
Kill the Mexican.
Kill the Gringo, voilà.
Voilà.
Les scènes d'action sont noyées dans une bouillie visuelle sans âme, faisant amèrement regretter la mise en scène inspirée et ample quand même du deuxième Rambo de George Pancosmatos, qui était magnifié par la photographie de Jack Cardiff, le chef-op de Michael Powell. Mais bon, là, c'est un peu moins le cas, c'est vraiment pas très bon. Souvent niais d'une bêtise impardonnable, hein, ce Rambo n'est au final qu'un navet de consommation courante qui ne serait finalement jamais sorti en salle si le personnage ne portait pas le nom de John Rambo, en fait.
John Rambo. Et donc, Sylvester Stallone, on va jouer avec sa filmographie, c'est le blind test de cette émission. Vous allez écouter 5 extraits de films, alors ultra connus, forcément, parce que la filmographie de Stallone, c'est quand même près de 67 millions de spectateurs dans les salles françaises. Hein. Si on accumule donc tous ces films, c'est quand même pas mal. Voilà, donc, premier extrait, c'est plutôt facile.
Salut, ça va?
Nous ne sommes pas habitués au contact physique quand nous nous saluons.
Oh, brutal. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plus de papier toilette.
Vous avez dit papier toilette?
Oh, au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez.
Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec 3 coquillages dessus.
Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Je conçois que ça puisse être déroutant.
Donc.
Et c'est Demolition Man où il partage la vedette avec Wesley Snipes.
Oui, et Sandra Bullock, on entendait la voix française, évidemment, de Sandra Bullock. 1 700 000 spectateurs en France pour ce film de 93. Deuxième extrait.
Tout ça, c'est du passé maintenant.
Pour vous ! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien.
Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça.
Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais ici, j'arrive pas à avoir un boulot. Guardian parking.
Ah, eh ben, c'est le premier Rambo de Ted Kotcheff.
Allez, troisième extrait.
T'en mourras un peu.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Que même seul, il s'en sortira très bien.
Si jamais il se fait surprendre par le mauvais temps, ils vont pas s'en tirer. Gabe, il lui faut un spécialiste des premiers secours et en plus, il faut un gars qui connaisse toutes les prises.
Je sais très bien qu'il refuserait mon aide, primo. Et secondo, c'est pas pour ça que je suis revenu.
Nos problèmes, ils passeront après. La vraie priorité, c'est eux. Et s'il n'y arrive pas tout seul?
Écoute, Jesse, j'ai pas grimpé depuis des mois. J'ai plus mes sensations.
T'as peut-être plus le cran, tu veux dire?
D'ailleurs, peu importe ce qu'il dit, souvent, c'est la voix qui, finalement, nous conduit.
Donc, c'est Cliffhanger de Rennie Harlin.
Film 93, de 93, et c'est un film qui avait été présenté hors compétition au Festival Cannes, de Cannes, ouais, et c'était bon, un peu après un passage à vide de Stallone, me semble-t-il.
Oui, ouais. Oui, ça faisait 5-6 ans qu'il n'avait pas tourné grand-chose.
Et 2 600 000 spectateurs en France, quatrième extrait.
Alors calme-toi, amigo. Tu veux causer ? On va causer. Une bonne conversation, aussi.
Je refuse de causer avec vous. Faites venir les caméras ici tout de suite. Allez, faites-les venir.
Hors de question.
Pourquoi?
Je ne traite pas avec les caractériels. Je les supprime.
Je suis pas un caractériel, mec. Je suis un héros. Je débarrasse la planète de tous les pourris que je rencontre. Comment il faut vous le dire? Je suis un héros du monde nouveau.
T'es un cinglé. Et je veux te guérir.
Crève!
Le sens de la réplique hein, pour un policier oui. Aux méthodes un peu viriles.
C'est donc Cobra de Cosmato, c'est là où il dit « Vous êtes le poison, je suis l'antidote
ah. ». Ah, j'aurais pu l'apprendre celle-ci, c'est vrai. Mais tu l'aurais trouvé encore plus facilement.
Encore plus facilement, parce que c'est au début et on l'oublie pas en fait. Hein.
Alors, eh bien, ça a quand même attiré quasiment autant que Cliffhanger, hein, quasiment 2,7 millions de spectateurs en France. Dernier extrait, c'est un des plus gros succès de Stallone.
J'ai vu ce que vous ressentiez pour moi, et ce que moi je ressentais pour vous.
Et я почувствовал, что вы тоже изменились.
Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que 20 millions.
Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов.
Alors vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé,
я думаю, что каждый тоже изменился.
Et que vous avez changé.
Вы можете измениться.
Tout le monde peut arriver à changer.
Каждый может измениться.
Alors, ça vaut pas le discours de Charlie Chaplin à la fin des temps modernes, mais bon.
C'est Rocky IV et on peut pas dire que ce soit le meilleur non plus.
Et non, mais c'est comme ça. Voilà, ainsi s'achève le blind test spécial Sylvester Stallone autour de la filmographie de l'acteur américain. Allez, on passe maintenant au Grand Prix du Festival de Cannes Atlantique de Mati Diop.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Atlantique débute sur deux fronts. D'un côté, un argument politique et social avec des ouvriers d'un chantier de Dakar qui ne sont plus payés et qui vont décider de partir en pirogue sur l'océan dans l'espoir de vivre une vie meilleure. Et de l'autre, eh bien, une histoire d'amour contrariée qui lie Souleymane, un de ses travailleurs candidats au passage, et puis Ada, deux jeunes gens de Dakar qui ont à peine 20 ans et qui s'aiment, sauf qu'Ada est promise à un autre. Alors on n'est pas loin de Roméo et Juliette, sauf que le film de Mati Diop n'emprunte pas du tout le chemin d'un film romantique. Les espoirs de voir dénouer cette histoire d'amour tombe vite à l'eau, si je puis dire, puisque les candidats à l'immigration n'atteindront jamais leur destination. Alors, si j'indiquais que le film empruntait deux voies dès son entame, eh bien, après la chronique sociale et sentimentale, il va ensuite dériver vers deux autres genres, le polar et le fantastique. À mesure que des êtres réputés morts réapparaissent, donc ceux qui sont partis sur les barques, eh bien, une enquête est ouverte, menée par un jeune policier qui aura beaucoup, mais alors là, vraiment beaucoup de difficultés, à la boucler. Pour mener son récit, la réalisatrice emprunte évidemment des motifs à la culture africaine, le revenant, ou plus exactement ici l'esprit tourmenté, qui demande une réparation des injustices. Il s'ensuit un film navigant donc entre plusieurs genres qui sont tous malmenés. Alors peut-être qu'on pourrait même résumer Atlantique à une fable politico-poétique teintée de fantastique. Mais en dehors des différents genres qui nous sont livrés sur le même mode narratif, sans aucune cassure de rythme, la réalisatrice nous offre aussi sur un plateau un film très mal joué, dans lequel la direction d'acteur est vraiment absente, principalement le rôle du policier, moi je trouvais insupportable. Mais c'est pas seulement ça, hein. C'est aussi la faute forcément à un casting non professionnel qui rend l'interprétation amatrice. Alors parfois ça marche, mais parfois ça marche pas. Un peu gênant pour un Grand Prix à Cannes. Alors Mati Diop a voulu raconter une histoire collective, celle de cette jeunesse qui un temps a voulu quitter le pays et qui maintenant aimerait plutôt le changer. Mais les détours métaphoriques sont un peu déroutants et le film s'épuise, devenant presque ennuyeux, empêtré dans une mise en scène qui, malgré son motif fantastique, reste terne. Mati Diop est née dans une famille d'artistes. Hein. Elle est la nièce du cinéaste Djibril Diop Mambéty, mais qui l'a peu connue en fait. Mais bon, forcément, ça a un peu joué sur sa carrière parce que ça l'a influencée. Alors, on l'écoute à Cannes où elle fait part de sa surprise finalement d'être la première réalisatrice noire à être en compétition officielle.
J'ai été très émue
quand j'ai appris la nouvelle, notre sélection. Bien sûr, on m'a souvent posé cette question, donc je me sens un tout petit peu gênée de donner chaque fois la même réponse. Mais depuis le début, ma réponse n'a pas changé, car je pense que, bien sûr, les émotions vont évoluer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. Tout d'abord, le fait d'avoir été choisi en sélection officielle, et puis j'ai découvert que j'étais la première réalisatrice noire à figurer dans la sélection. C'est une grande nouvelle, bien sûr. Mon premier sentiment, très honnêtement, était une certaine tristesse parce que je me suis dit, oh là là, il a fallu attendre si longtemps pour que ça se passe. C'est 2019, c'est tard déjà. C'est incroyable d'ailleurs que ça reste un si grand événement qu'il y ait enfin une femme réalisatrice noire en sélection officielle à Cannes.
Alors, quand même, on donne des précisions. Mati Diop vit en France. Et donc son film est coproduit évidemment par la France, voilà, ce qui peut aider. Pour un premier film quand même, c'est assez rare qu'il soit primé à Cannes. Et alors c'était le cas aussi cette année de Ladjili, le film Les Misérables. Bon là où j'ai franchement apprécié, mais on en parlera un peu plus tard dans la saison de Cinérama. Allez, on parle d'une ressortie, c'est Long Weekend. Qui n'est pas une incitation à faire du camping sauvage.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Un long week-end d'ailleurs, hein, très très long, hein, surtout pour les personnages principaux, qui ne débutent pas dans la sérénité et l'amour. Alors le couple en crise hein, n'est pas un thème rassurant, attractif, agissant souvent comme un reflet en miroir de nos propres difficultés. L'inscrire ouvertement dans un genre très défini, hein, le fantastique, n'apporte pas une légèreté, mais enrichit au contraire la dimension symbolique et allégorique d'un récit introspectif et peu aimable. Peu aimable car les deux personnages principaux, Peter et Marcia, de ce long week-end, remarquablement interprétés par John Hargreaves et Briony Beate, apparaissent dès les premiers plans comme marqués par la frustration et la rancœur. Derrière leur confort d'une existence bourgeoise, ils n'inspirent aucune empathie. Leurs premiers échanges, sous-tendus par une agressivité verbale, installent un malaise qui ne quittera jamais le film. D'emblée, le spectateur n'est pas dupe, il sait que cette escapade est vouée à l'échec. Le désir de réparation n'existe pas, ce n'est qu'une illusion, tant ce couple n'en est plus vraiment un. Aucun fantôme ne les sépare, seulement des histoires pathétiques d'adultère et de fric. Peter et Marcia sont juste bouffis de haine l'un envers l'autre et de détestation d'eux-mêmes. Ce constat verrouille le film dès le départ, engoncé dans une direction programmatique trop univoque. Alors les dés sont pipés, mais l'intérêt est ailleurs, dans la manière dont le réalisateur va détruire sciemment ce couple, le confronter à son égoïsme primaire d'être humain, vivant dans une bulle, évacuant le reste du monde et, en l'occurrence, la nature. Alors la dimension écologique, alors en vogue dans le cinéma australien des années 70, grâce notamment à deux chefs-d'œuvre de Peter Weir, Picnic à Hanging Rock et La Dernière Vague, ouvre une perspective cauchemardesque à un film qui remporta en 79 le Grand Prix à Avoriaz. Alors le couple au bord de la rupture hein, part camper durant un week-end au bord de l'océan Pacifique afin de profiter pleinement de l'étendue des paysages, de l'atmosphère sauvage qui règne en ces lieux. Mais sur place, leur comportement ne s'améliore pas. Pire, ils se livrent chacun à leur tour à un jeu pervers, conscient ou non, visant à détruire l'autre. Alors auto-centrés sur leur crise conjugale, ils restent indifférents à l'environnement, commençant par jeter les déchets sans se soucier de civisme. Le film multiplie les séquences pointant la cruauté de ces êtres doués d'intelligence, mais dénués de sensibles, n'hésitant pas à écraser les insectes avant de tuer des animaux, alors soit pour les manger, soit parce qu'ils peuvent représenter un danger potentiel. Il y a juste le chien qui est un animal domestique et forcément inoffensif. Alors, ils détériorent la nature sans entrevoir les conséquences néfastes de leur acte. Le fantastique hein, s'insinue alors par petites touches, par des signes insignifiants au départ, mais reprenant au fur et à mesure de l'évolution dramaturgique, une importance de plus en plus inquiétante jusqu'à un final jubilatoire. Les bruits inquiétants accentués par l'absence de musique, les branches qui fouettent les visages, les insectes qui s'immiscent dans le quotidien du couple, l'attaque aussi d'un oiseau inoffensif demeurent quelques éléments qui vont dérégler le séjour déjà bien perturbé. Évidemment, l'idéologie, on va dire un peu animiste, domine un film radical qui fait peu cas de l'espèce humaine. Mais surtout, il faut y voir en creux hein, une critique de la société consumériste, de gens qui sont repliés sur eux-mêmes et déconnectés en fait, de la nature. Les images splendides nous invitent à admirer une nature majestueuse et variée que nos protagonistes sont incapables d'apprécier à leur juste valeur et qui va se retourner contre eux. Alors les 20 dernières minutes, hein, quasi cathartiques, font l'effet vraiment d'un déchaînement assez jouissif envers deux pitoyables individus obsédés par leurs problématiques. La mise en scène, d'ailleurs, sert vraiment le propos en multipliant les plans larges, en dénudant le récit de tout artifice. Elle nous met vraiment à distance dans une position d'observateur, provoquant un effroi qui est comme un peu glaçant, distant, pas vraiment immersif, comme beaucoup de films d'horreur de ce type. Alors voilà, c'est vraiment un très bon film qui est écrit par un scénariste spécialiste de ce genre qui s'appelle Everett Doroche et réalisé par Colin Eggleston qui n'a pas fait grand-chose à part ce film.
Et c'était l'occasion de reparler du festival d'Avoria dont on
parle. Gérard Mer.
Voilà.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, encore une interview, celle de la réalisatrice de Papicha. On parlera aussi de Chambre 212, de dernier Christophe Honoré. Et puis on aura vu, probablement, Joker.